Nous sommes en train de continuer une petite série sur la nouvelle nature et tout ce que le Seigneur veut faire en nous. Pourquoi on voit plusieurs aspects comme cela? Mais c'est dans le but d'élargir notre vision des choses. Où est-ce que Dieu veut m'emmener? C'est ça qui est la question. Dans quoi que Dieu veut nous transformer? Si on part en voyage et on ne sait pas où on s'en va, ça va partir, c'est un « nowhere ». Bien, tu passes, mettons, sur le pouce, tu sais pas où tu t'en vas, mais tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver non plus. Comme tu peux avoir un voyage organisé, que tu connais déjà les étapes, tu peux déjà anticiper de voir telle chose, parce que c'est programmé, puis tu as plus de chances de voir des choses parce que tu as déjà prévu de les voir. Que si tu pars à l'aveuglette, puis après avoir fait le tour en char, tu as juste vu du chemin, mais tu n'as pas préparé d'arrêt puis des places pour visiter. Fait que moi, je crois que Dieu, il nous a laissé sa parole. Ça avait un but, pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Puis on sache qu'est-ce qui doit nous arriver. Pour qu'on sache qu'est-ce qu'il veut faire en nous. Pour qu'on sache ses promesses. Pour qu'on sache les parties de restauration, de transformation. Il nous a tout écrit dans la parole. Étudier la parole, c'est comme allumer la lumière. T'allumes la lumière et dis ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais t'allumes la parole de Dieu, tu trouves la parole de Dieu et tu viens de comprendre où est-ce que tu t'en vas. Moi, je suis content de savoir que je m'en vais dans la vie éternelle. Pourquoi je le sais? Mais c'est parce que Dieu me le dit. Puis pourquoi il me le dit? Bien, je l'ai lu dans la Bible, puis c'est écrit noir sur blanc, c'est la parole de Dieu, puis ça nous dit d'avance qu'est-ce qui va arriver. Fait que merci Seigneur. Mais tous les changements, les transformations aussi sont nécessaires dans notre vie. Dieu, il aurait pu faire un plan qu'il décide de nous pardonner, mais nous rester aussi comme qu'on était. Il aurait pu décider ça, mais si on aurait resté comme qu'on était, on aurait peut-être continué à vouloir vivre comme qu'on vivait. Puis on vivait une vie sans Dieu, puis sans s'accrocher par la foi, puis sans changement. Ça n'aura pas abouti à grand-chose. Tandis que là, il a décidé de changer du monde qui n'avait plus rien à faire avec. Parce qu'on était irrécupérable. Humainement parlant, c'est impossible qu'on puisse être récupéré. On était bon pour les vidanges, pour Dieu, devant Dieu. Il a fallu qu'il nous pardonne puis qu'il nous transforme pour nous amener à être purifiés, pour qu'on soit de plus en plus comme l'or qui a été purifié. Pour qu'on ait de la valeur à ses yeux. Puis ça, c'est le nouveau mode de vie qu'il nous donne en Jésus. On est en train de voir différents points que le Seigneur veut nous changer. Aujourd'hui, le point qu'on va regarder ensemble, devenir mature, c'est se responsabiliser face à l'évangélisation, à notre devoir, en fin de compte, parce que on le sait que quand, avant qu'on connaisse le Seigneur, on ne parlait pas gros de Jésus. Qui était un évangéliste ou un pasteur avant de connaître Jésus? Peut-être pour des fausses religions, puis on instruisait le monde dans des menteries, dans des sciences de ce monde, ou dans des sciences occultes carrément. Mais quand tu viens à Jésus, il veut t'équiper là pour que tu deviennes comme Jésus. Puis Jésus, lui, il ne prenait pas de détour. Il disait les choses vraies qui venaient de Dieu, puis il rendait témoignage de la vérité. On veut savoir c'est quoi la vérité, mais c'est pour ça qu'on étudie sa parole. Il dit, parvenir à la maturité, c'est de travailler au salut des âmes avec la vision de Jésus. Jésus avait une manière de regarder les gens. Il les voyait pas avec une manière simple humaine. Lui, il voyait des gens abattus, écrasés, comme des brebis sans berger, qui savaient pas où ce qui s'en allait, puis il n'y a pas personne qui prenait soin d'eux. Pas que Dieu voulait pas prendre soin d'eux, c'est que les gens refusaient l'aide de Dieu. Jésus dit, combien de fois j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu y appela le peuple d'Israël à venir à lui, puis viens, je vais te couvrir de mes ailes, je vais vous aller m'en pourvoir, puis toute la quitte, il y avait des promesses. Le monde, ça prenait pas grand temps qu'il se tournait vers des faux dieux, puis il se mettait à adorer d'autres faux dieux. Mais Jésus voyait les gens avec ses yeux à lui, puis je crois que Dieu veut nous amener à voir les gens avec ses yeux à lui. Parce qu'il y a un enjeu là-dedans, là. On parle de perte, de perdition d'âme. Puis on parle pas de toi. On parle de la majorité des âmes se perdent parce qu'ils marchent sans Dieu, puis ils savent pas le chemin qui leur donnera le bonheur terrestre, puis le pardon des péchés, puis une place dans la vie éternelle avec Dieu. Le travail du Saint-Esprit depuis notre conversion, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Puis cette vérité-là qu'on a à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande commission, il y a un grand travail que Jésus a commencé il y a 2000 ans, puis qu'on doit continuer avec la même vision, le même acharnement, à répéter nos efforts pour essayer de récupérer le plus d'âmes possibles qui sont perdues. Plus que nous apprenons les révélations de la parole de Dieu, plus nous prenons conscience de l'état de ce monde. Parce que plus tu étudies la Bible, plus tu aperçois aussi comment c'était avant, puis où ce que le Seigneur veut t'emmener. Puis tout le monde entier, il est dans la même état que tu étais avant de connaître le Seigneur. Plus tu vas étudier la Bible, plus tu vas te rendre compte comment le monde est perdu, il est sans Dieu. Ils sont faits, ils s'en vont vers une perdition éternelle. Il n'y a plus de deuxième chance. C'est pas comme un jeu vidéo que tu payes sur le reset puis tu restartes une nouvelle game. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est pour ça que l'enjeu est énorme. Je sais pas si on se rend compte comment est-ce qu'on est privilégié de le connaître, le chemin, puis de savoir qu'on a l'assurance d'avoir la vie éternelle à cause de Jésus. Puis il y a des millions de personnes qui nous entourent qui ne savent rien de tout cela. Plus qu'on l'étudie, plus qu'on prend conscience de l'état du monde, plus on réalise comment nous-mêmes et ce monde ont besoin du Sauveur. Parce que le premier et le plus grand des problèmes à régler, que personne ne peut régler tout seul, c'est le problème du péché. Puis de la conséquence du péché. La Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu approfondis l'étude, puis tu te rends compte, ils s'en vont dans la mort éternelle, la séparer de Dieu éternellement. C'est quelque chose. En même temps qu'on apprend, qu'on évolue dans nos compréhensions, en même temps, on ressent notre responsabilité qui nous est remise par les paroles de Jésus, parce que Jésus nous a transmis le flambeau. Lui, il était la lumière dans ce monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais après ça, il nous a transmis le flambeau. Il a transmis le flambeau à ses disciples. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Puis là, il nous équipe pour pouvoir aller faire une mission que lui a commencée. Jésus, il dit qu'il a nommé les apôtres pour aller, puis les 72 disciples pour aller où ce que lui-même devait aller. C'était comme si lui, il arrêtait, mais il a envoyé les 72 pour y aller travailler à l'évangélisation. Mais quand Jésus a quitté ce monde, quand il était dans les derniers moments, il apparaissait à ses disciples après sa mort pendant 40 jours. Il lui expliquait les choses concernant le royaume. Dans Marc 16, le verset 15 et 16, puis Jésus a dit en particulier à ses apôtres, à ses disciples qui étaient là, lui a donné une tâche, lui a donné le partage du flambeau. Il lui dit, allez! Allez par tout le monde! Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira que sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira pas sera condamné. Toute une commission. Parce qu'on a d'aimer, là, le salut, puis on a d'aimer la perdition des gens. On a une responsabilité là-dedans. Il nous dit, allez! C'est à nous autres là qui parlent. Parlez, allez annoncer à toute la création, à toute la création, c'est à Tout ce qui peut entendre le message, là, c'est, peu importe, c'est pas à nous à juger. Oh, lui, il devrait l'entendre, l'autre doit... Puis il a commencé à trier, il dit, oh, lui, là, il voudra rien savoir. C'est pas à nous à juger, il dit, annonce-les à tout le monde. Profitons du moment qu'il nous reste à vivre sur cette terre pour dire aux gens de se réveiller. Parce que si tu crois, puis t'es baptisé, tu vas être sauvé. Si tu crois pas, tu vas être condamné. C'est clair, c'est tranchant. S'il n'y a pas de troisième mesure, « Ah, oh, mais il va y avoir un autre. » Non, c'est un ou l'autre. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? C'est ça qui est le point. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Tu le prends-tu comme ton sauveur, puis t'en faire une priorité pour le suivre, pour qu'il soit ton Seigneur? Ou tu dis, « On verra ça demain, puis on verra ça plus tard, ou on veut rien savoir, mais t'es fait. » Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus a dit, « Je suis le chemin. » La vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Tu n'as pas le choix de passer par Jésus pour être sauvé, il n'y a pas d'autre chemin. L'enjeu est grave. Ressentez-vous dans ce verset-là qui dit « Allez par tout le monde, puis prêchez la bonne nouvelle à toute la création, puis dire qu'ils peuvent être sauvés comme qu'ils peuvent être perdus. » Ressentez-vous un peu la responsabilité que Jésus essaye de nous dire, comme nous dit, c'est à toi de t'occuper de cela. Peut-on être insensible à tout cela? Je dis, oh, Jésus a dit ça, ouais, mais ça, c'est dans ce temps-là. Puis commencer à rejeter la responsabilité. Oh, ben lui, il est bien bon là-dedans. Commencer ça à dire ça, à remettre la responsabilité sur les épaules des autres. Mais si on n'accepte pas le changement de Dieu, oui, on peut rester insensible. Parce que le Saint-Esprit veut nous amener dans la nouvelle la transformation, il veut nous amener à être comme Jésus. Si tu deviens et tu es transformé en la même image pour devenir comme Jésus, ça veut dire que tu vas penser comme Jésus, puis tu vas voir les gens comme Jésus les voyait. Si Jésus voyait Jean, s'ils croient en moi, ils vont être sauvés. S'ils ne croient pas, ils vont être perdus. Si tu es transformé, tu acceptes le changement du Saint-Esprit, oui, tu vas devenir sensible, comme Jésus, aux gens qui t'entourent. Comme qu'on peut rejeter cette transformation-là que le Saint-Esprit veut faire pour nous amener comme Jésus, puis de vouloir demeurer insensible. Dieu le Père a envoyé son Fils sauver le monde par son sacrifice. Tous sont appelés à rentrer dans l'éternité. Dans le verset, dans Jean 3, 16, ça nous dit, Dieu y a tant aimé, là on pourrait mettre marqué mon nom ou votre nom, puis arrêter là. Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils, donc tout est fait, mais ça a l'air, c'est pas ça qui est écrit. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le regard de Dieu, le regard de Jésus. Ça, c'est la pensée de Jésus. On dit qu'on veut être transformé pour devenir comme lui, mais ça, ça fait partie de comment est-ce que Jésus pense face aux âmes perdues. Le désir de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Il nous le dit dans 1 Timothée 2,4. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le cœur de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Il veut pas que les gens s'en aillent dans perdition. Il a tellement pas voulu que les gens y aillent, qui a décidé de venir en forme humaine sur la terre pour venir souffrir, pour payer la dette à tout le monde, pour que tu aies juste besoin de croire pour être sauvé. C'est-tu quelque chose? Moi, je crois quand on rentre dans cela, on commence à comprendre comment est-ce que Dieu nous a aimés, puis comment Dieu voulait nous sauver, puis comment est-ce qu'il a tout fait pour nous sauver. Si une personne n'est pas sauvée aujourd'hui, là, c'est pas parce que Dieu n'a pas fait ce qui était nécessaire. Parce que même là, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs, mais là, il donne la commission à l'Église d'aller récupérer les gens que Dieu veut sauver. Dieu veut sauver tout le monde, mais il sait d'avance qui va croire, puis il est en train de travailler, puis il sait d'avance qu'il y en a qui croiront pas. Puis c'est de même. Judas, lui, il savait d'avance que Judas était pour le livrer. Puis c'était écrit dans l'Ancien Testament. Mais l'idée, c'est, Dieu veut sauver tout le monde, puis c'est son cœur, sa vision des choses, puis il veut que nous autres, on rentre dans son plan à lui, qu'on commence à voir les gens avec ses yeux à lui. Si Dieu veut sauver tout le monde, il dit veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas aussi notre désir? Avons-nous ce petit désir-là? Hey Seigneur, sauve nos familles, sauve nos voisins, sauve nos amis, sauve nos compagnons de travail, sauve nos compatriotes. Il y a combien? Il y a 10 000 personnes, 12 000 personnes ici dans Beauharnois. Seigneur, sauve les gens dans Beauharnois. Ça devrait être notre désir. Si on n'a pas ce désir-là, on n'est pas encore rentré dans le cœur de Dieu de vouloir sauver tout le monde. Mais il faut se laisser transformer. C'est pas pour rien qu'on en parle régulièrement de ce message-là, parce que le Saint-Esprit veut nous amener à être comme cela. Qu'on soit pas des gens insensibles, qu'on sente là que c'est ma part, faut que je fasse quelque chose pour qu'ils puissent être sauvés eux aussi. C'est vrai que les gens sont pécheurs, qui méritent le châtiment de Dieu. Surtout ceux qui nous font du mal. C'est vrai des fois qu'on pense comme ça. Ils méritent, puis tu vois ça, mais que Dieu le pogne, il va y goûter. Des fois, il y en a qui pensent jusqu'à de même. Mais c'est pas le désir de Dieu. Qui est parent, puis qui aime ça, chicaner ses enfants? Il n'y a pas personne, à moins que tu sois un sadique, un cruel, puis qui veut remettre le mal continuellement. Dieu n'est pas de même. Oui, il y a des gens comme ça parce qu'ils sont comme le diable, à s'en revenger, puis à détruire. Mais ça, c'est le diable, c'est pas Dieu. Dieu est amour, puis il veut les sauver, il veut le pardonner. Il a tout fait pour les pardonner, pour pas que les gens aient à subir ses jugements. Mais ces jugements sont là à cause de sa justice. Mais Dieu, à cause de son amour, il a pourvu à ce qu'on puisse bypasser sa justice, qu'on n'aille pas à être frappé puis recevoir le châtiment que méritaient nos péchés. Il nous a donné un moyen de s'en sortir. C'est comme si, dans son désir de justice, il fallait qu'il punisse le péché, puis dans son amour, il a décidé que je vais lui donner une porte pour qu'il puisse éviter mes punitions. Il est celui qui est capable de punir, mais aussi de donner la grâce de pouvoir s'en sortir gratuitement, sans qu'on fasse quoi que ce soit. On a juste à croire, pas à changer de vie, à vouloir suivre Jésus. Le cœur de Dieu n'est pas de vouloir les punir, mais de les voir sauvés. C'est ça que Dieu veut faire, il veut sauver tout le monde. Dans Ézéchiel 33, verset 11, il dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Voyez-vous, il est où le cœur de Dieu à vouloir sauver? Il veut pas que le méchant meure, il veut que le méchant vive, mais il veut qu'il change de voie pour vivre. Si, en réalité, le jugement, puis la colère de Dieu est contre ceux qui vivent tout croche dans la rébellion, puis dans le péché, puis offensent Dieu tout le temps, puis qui ne veulent pas changer. Ça, là, Dieu n'est pas capable d'endurer ça. Mais si on veut changer, l'accès est ouvert, Jésus a tout accompli. Tout le monde a le même accès pour s'approcher de Dieu. Tout le monde a le même accès. Puis quasiment partout sur la planète, ils ont entendu parler de Jésus. Même les faux prophètes en parlent. Ils n'en parlent peut-être pas de la bonne façon, mais il y a beaucoup de fausses religions qui ont introduit Jésus dans leur histoire, mais ils le représentent comme un prophète, comme un bon gars, un gars qui est avant-gardiste, ou un peace and love, c'est un hippie. Tout le monde, il y a eu des vagues de pensées sur Jésus. Ils n'ont entendu parler, il n'y a qu'un seul accès, mais Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il ne fera pas de passe droit. Autant qu'il a décrété que le salaire du péché, c'est la mort, autant qu'il a décrété que le seul moyen pour être pardonné, c'est à travers son fils Jésus. Il n'y aura pas de bypass, d'acception de personne pour d'autres qui disent « Ah, ben moi, je suis neutre, je suis sans ligne, moi, ça ne me dérange pas, un ou l'autre. » Non, ça, on ne peut pas. C'est soit que tu suis Jésus, ou soit que tu vas subir le jugement. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira pas, sera condamné. Mais le Seigneur, il est prêt à accueillir tous ceux qui l'invoquent. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans Romains 10, 12, 13, ça dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est généreux? Même si tu aurais été le pire criminel sur la terre, puis tu aurais des péchés là, jusqu'au plafond, sans arrêt tous les jours, du moment que tu décides de te repentir et d'invoquer Dieu, il va te pardonner. Il va te pardonner, peu importe ce que tu as fait. Ce qui est précisé dans la Bible, c'est qu'il n'y a que l'Évangile de Dieu qui peut sauver quelqu'un. Il n'y a pas deux manières. Dans 1 Corinthiens 15, de 1 et 2, les versets 1 et 2, ça dit, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » L'Évangile, là, c'est la bonne nouvelle. Puis ça, c'est la bonne nouvelle du salut qui est offert gratuit en Jésus. L'Évangile comprend que Jésus, c'est le Messie, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le troisième jour, puis qu'il y a une vie éternelle après. Ça, c'est l'Évangile. Puis que sa mort sur la croix, c'était pour expier les péchés de l'humanité, pour permettre à quiconque qui veut être sauvé, bien, tu tournes vers Jésus, puis tu es lavé de tes péchés, puis tu peux commencer la nouvelle vie avec le Saint-Esprit, cette nouvelle nature qu'il te donne pour te transformer et devenir comme Jésus. C'est pour ça que ça prend du monde qui veut changer, que le méchant change de vie, puis qu'il va vivre, parce que le Saint-Esprit va y aider à changer de vie. Puis c'est dans ce chemin-là qu'on est entré, puis qu'on marche aujourd'hui. On marche dans la foi, puis on veut la transformation, puis le Saint-Esprit, il fait le travail. Il nous change, puis il nous a déjà changé plein d'affaires dans nos pensées, puis dans nos agissements aussi. C'est pour cela qu'il est important de répandre le message, de l'annoncer aux autres, de leur dire, parce qu'on l'a reçu, il dit par lequel vous l'avez reçu, puis que vous dans lequel vous avez persévéré, puis par lequel vous êtes sauvés, puis on a l'intention de ne pas débarquer, mais ça, c'est correct, ça, c'est la belle partie, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. C'est ça qui est la responsabilité, de transmettre ce qu'on a reçu. Dans Romains 10, le verset 14 et 15, ça nous dit, « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas entendu parler? » Comment est-ce qu'en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Voyez-vous, là, la responsabilité est là. Comment les gens vont croire en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Impossible. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour n'entendre parler? Là, on parle de là aujourd'hui, à l'an 2018. Comment les gens vont faire à l'an 2018 pour entendre parler de Jésus? Faut que quelqu'un se sorte de l'Église, là, quelqu'un qui le sait et qui le vit, qui sorte de son banc, puis qui se lève et commence à dire, à faire quelque chose, à faire des gestes, qui fait que le monde en entende parler. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il a pris position publiquement, puis il était accompagné de miracles pour attirer encore plus de monde à écouter. Il y a eu des milliers de personnes sauvées tout de suite après qu'il soit mort. Puis la bonne nouvelle a commencé à se répandre partout, à s'écouvrir sur toute la surface de ce temps-là, pendant des siècles. Puis 2000 ans plus tard, la bonne nouvelle est encore annoncée, puis on a encore le livre dans les mains. Merci Seigneur. Mais comment on va faire pour sensibiliser les gens autour avec ce message-là? Il nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il y a des gens, on va dire, je veux pas valoriser les gens, moi j'aime pas élever les gens, mais faut quand même reconnaître que le Saint-Esprit a travaillé dans des personnes au point que les personnes se sont engagées à travailler publiquement pour répandre le message. Il y a du monde à la télévision qui prêche l'Évangile, là. Ouais, il est payé pour, il est peut-être payé pour ça, mais il a le don pour faire ce qu'il a à faire, puis il a le support financier. Il y a une équipe, il n'est pas tout seul, là. Il y a une équipe qui le soutient à pourvoir financièrement. Lui, il est là, puis il met du temps, puis il travaille fort. Puis, il est peut-être à plein temps pour faire cela, puis peut-être qu'il y a une job de pasteur ailleurs en plus. Peut-être c'est du bénévolat qu'il fait, mais il est là, à TV ou à radio. Puis, il met du temps pour que le message soit vu et entendu le plus facilement possible. C'est du monde qui ont eu la vision de Jésus, puis qui ils ont répondu à l'appel, puis ils ont dit, j'y vais, guide-moi dans ce que j'ai à faire, Seigneur, je vais le faire. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Puis le Seigneur les a emmenés là, puis ils sont installés là, puis ils annoncent le message. Ça n'en prend plus que ça. Mais il y a déjà eux. Mais nous autres, moi je crois que le Québec surtout, on est l'endroit le moins évangélisé sur la terre. On envoie souvent des missionnaires en Afrique ou en des places de même, mais le monde la reçoit, la parole. C'est plus encourageant, disons qu'il y a plus de monde qui accepte, tu fais un meeting, c'est rempli de suite. Nous, c'est une terre qui est différente, c'est plus dur de travailler dans la terre où ce que nous sommes, mais Jésus a dit, je vous ai choisi, puis je vous ai établi, afin que vous alliez, puis porter du fruit, puis que votre fruit demeure. Fait que où est-ce qu'on est présentement, c'est Jésus qui nous a mis ici. On a cette responsabilité-là de travailler dans cette terre dure. On est à nous-mêmes des durs, puis il nous a emmenés au Seigneur. Fait que s'il nous a emmenés, il est capable d'emmener les autres, mais il a besoin de notre participation. Le Saint-Esprit travaille pour nous changer, pour nous amener à être comme Jésus par la nouvelle nature. Il va nous amener à ce qu'on soit saisi, qu'on comprenne ce qui se passe avec le monde qui est en train de mourir, puis qu'on se sente responsable de répondre à son appel. On dit, Seigneur, utilise-moi, guide-moi, montre-moi guide-moi, ouvre-moi les portes pour que je puisse répandre la parole autour. Tiens, amen à cela.
Amen.
Dans son plan, le Seigneur a pourvu à l'aide dont nous avons besoin pour cette mission. Il ne nous a pas laissé tout seul puis dit arrangez-vous pour faire cet ouvrage-là, non. Il nous équipe. Dans Actes 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu veux témoigner du nom de Jésus, tu veux être un témoin, tu veux briller dans ce monde, tu veux être le porteur du flambeau, il dit, il t'accompagne le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, il te l'a donné, ta vie change par lui, mais il est aussi une puissance pour donner la force, puis les révélations que tu auras besoin pour pouvoir parler aux gens. Puis il va t'utiliser, puis il va emmener d'autres personnes au Seigneur avec tout cela. Merci Seigneur, c'est de même, ça marche. Il nous laisse pas tout seul, il va faire la job à travers nous. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre pour convaincre les gens. Il dit, convaincra les gens ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. C'est sa job. Il dit, sans moi, vous pouvez pas rien faire, mais on croit que le Saint-Esprit est en train d'agir pour sauver les gens qui nous entourent. On a aussi les outils qu'on a besoin pour évangéliser. On a besoin d'outils. On sait-tu quel outil que l'apôtre Paul, par exemple, quel outil que l'apôtre Paul utilisait pour évangéliser? Le témoignage, hein?
La langue,
c'est sûr, il sert de sa langue et annonçait la parole de Dieu. Alors regardez dans Actes 28, le verset 23. Ça, c'est dans son voyage missionnaire, il se retrouve en prison, mais il a quand même eu des ouvertures pour répandre la parole à du monde. Il dit, ils fixèrent un jour, puis plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Il était en prison, mais ils ont permis de vivre dans un logement en attendant, je ne sais pas comment se faire. Mais il ne devait pas trouver que son cas était si grave que ça, c'était pas un criminel. Puis Paul leur annonça le royaume de Dieu. Il parla du royaume de Dieu. C'est dans Actes 28, le verset 23. En rendant témoignage, premièrement, il rendait témoignage. Il témoignait comment, Paul? Mais il racontait son témoignage. C'était quoi son témoignage? Jésus, il est apparu sur le chemin de Damas. Il était pleinement convaincu que c'était vrai, que Jésus existe. Jésus, il a parlé. Puis Jésus, il a dit, tu vas être ministre et témoin des choses pour lesquelles je t'ai apparu. Et pour lequel je t'apparaîtrai. Parce que Jésus a apparu plusieurs fois à Paul, même pour lui enseigner les choses. Fait que Paul, il a été privilégié de vivre un témoignage, là, incroyable. Même si le monde dit, Jésus n'existe pas. Hey, je l'ai vu de mes yeux, puis le monde qui est autour de moi, je pense qu'ils disent qu'ils ont vu la lumière, puis lui, il entendait la voix, mais les autres, ils savaient qu'il se passait quelque chose, mais ils voyaient pas tout. Mais lui, il était choisi, tout il était dit, tout de suite, il était aveugle, Ananias a prié pour lui, les écailles ont tombé de ses yeux. Il y a tout un témoignage, ça sans compter tous les miracles que Dieu a fait à travers de lui, puis toute la puissance de Dieu s'est déployée à travers de lui. Il était un témoignage, il a vu des gens sauvés, des démons sortir, des guérisons, etc. Fait que il annonçait le royaume de Dieu en rendant témoignage, fait qu'il expliquait ce que lui avait vécu, puis c'est ça que Jésus avait dit aux démoniaques qui avaient été délivrés. Il dit, va vers les tiens, puis ceux de ta maison, puis dis-leur comment est-ce que le Seigneur a eu pitié de toi. Lui, il était hors de contrôle, ce gars-là. Il était hors de contrôle, il vivait dans un cimetière, puis il se meurtrissait avec des pierres, il était attaché avec des chaînes, il cassait les chaînes, il était possédé de démons. Après qu'il ait été délivré, il voulait suivre Jésus. Il dit, non, va voir les tiens, ceux de ta maison, puis dis-leur comment est-ce que le Seigneur a eu pitié de toi. Raconte ton témoignage. C'est ça qui est le secret. Des fois, on dit, moi, j'ai pas été à l'école biblique assez longtemps, j'ai rien à dire. T'as pas besoin de réciter la Bible par cœur. Va lui dire ce que Jésus a fait dans ta vie, parce que c'est sûr, quand t'as donné ta vie au Seigneur, ta vie a commencé à changer. Raconte ce qui s'est passé, Dieu va se servir de cela. Fait que là, il dit qu'il annonçait le royaume de Dieu, il rendait témoignage, et en cherchant par la loi de Moïse et les prophètes, ça c'est les écrits de l'Ancien Testament qu'il avait dans les mains, il cherchait par la loi de Moïse et les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. Quand tu évangélises, tu essaies de prouver que c'est vrai. Jésus est venu, mais il est annoncé dans la Bible. Là, tu sors les écrits de l'Ancien, où c'est écrit que Jésus est venu, t'as pour naître d'une vierge, naître à Bethléem, puis il vient de la Galilée, puis toutes les prophéties qui puis il mourrait sur la croix, c'est écrit qu'il serait suspendu au bois, pendu au bois, c'est écrit qu'il se partagera ses vêtements, qu'il tire au sort sa tunique, il fera boire du vinaigre. C'était tout écrit. C'était toutes des affaires qui se sont accomplies. Fait qu'il y en a des choses à dire. Alors, regarde, c'est écrit 1500 ans avant qu'il vienne, puis c'est tout arrivé. Il annonçait le Messie qui écrasera la tête du serpent. Oui. Fait que tout ça pour dire, il sert de son témoignage, mais il sert aussi des écrits de la parole. pour prouver ce qui concerne Jésus. Quand tu évangélises, là, ils n'ont pas besoin de savoir, ah, oh, la terre est-tu plate ou est ronde? C'est pas ça qui est le sujet, là. C'est de parler de Jésus. Parle de Jésus. Parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Parle de ce que la Bible dit à propos de Jésus. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Messie. C'est lui qui peut sauver les sauver de leurs péchés. Dans notre transformation, nous avons trois choses que je crois que le Seigneur doit changer pour qu'on soit des témoins. Il faut que Dieu, premièrement, développe en nous l'amour des âmes perdues. Si on est un indifférent, qu'on s'en fout que le monde s'en aille en enfer, okay, arrangez-vous avec vos troubles. Si vous êtes de même, vous ne serez pas un gagneur d'âme. Vous ne serez pas une personne qui va avoir la vision de Jésus. Il faut que tu changes. Ça, ça fait partie de ce que Dieu veut changer. Il veut t'amener à être comme Jésus, à avoir la vision de Jésus sur l'état des âmes perdues. C'est la première chose qu'il faut qu'il change. Il faut qu'il enlève notre insensibilité ou notre indifférence. Dans 2 Timothée 2:24, ça nous dit, vu qu'on est des serviteurs du Seigneur, là, il faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, ça veut dire avoir une parole pour tous, une bonne parole pour tous, être capable de donner des bonnes paroles aux gens qui nous entourent, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Fait que quand tu expliques les choses de Dieu, c'est pas pour t'ostiner. C'est ça qui était le but de ce texte-là. De pas chercher tout haut à avoir raison, puis à t'ostiner, puis la bataille prend à tous les fois qu'on tourne en argumentation qui finit plus, puis on est en quasiment en train de se battre. C'est arrivé, ça, là, des moments comme ça, où que le monde s'estime tellement fort qu'ils sont en chicane, après, ils ne veulent même plus se parler. Un serviteur du Seigneur ne va pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit un gars patient, puis il donne du temps aux gens pour que les gens comprennent. Il faut t'attendre, tu ne peux pas les exiger qu'ils se convertissent la première fois que tu leur en parles. Tu es là pour expliquer, doucement, mais... Moi, ce que je voulais en venir, pourquoi que ce verset-là est bon là-dedans, c'est tu as l'amour des âmes perdues. Tu veux les voir sauver. Tu as de l'intérêt pour leurs âmes, puis tu vas être patient pour laisser Dieu agir. Tu sèmes, puis tu laisses Dieu agir. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent. Moi, c'est un an après je me suis converti. Puis il y en a que c'est 20 ans plus tard qui se sont convertis. Fait que faut que tu laisses du temps. Tu peux pas les forcer à dire « Suis Jésus », puis là, tu leur casses un bras. Fait qu'il faut que Dieu mette de l'intérêt pour les âmes perdues. Puis ça va nous faire donner... si tu as de l'intérêt, tu vas vouloir y aller, faire attention, avec douceur, lui donner des bonnes paroles. Tu vas être condescendant, c'est d'avoir des bonnes paroles, puis essayer de les gagner. Il y a l'amour aussi là-dedans, parce que tu les aimes. Mais ça, c'est le premier des points que Dieu veut mettre. Le deuxième point que Dieu veut changer dans nos vies pour qu'on soit des gagneurs d'âme, pour qu'on arrive à avoir la vision comme Jésus l'avait, c'est un peu être toujours prête à vouloir parler de Jésus. On n'est pas toujours disposé à vouloir parler de Jésus. Tu sais, ils disent... Comme les scouts, t'es toujours prête. C'est une devise pour les scouts qu'ils développaient aux jeunes d'être toujours prête à faire des bonnes actions. C'était ça qui était la devise. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. Faut que tu sois toujours prête. Prête à être capable de répondre à quelqu'un qui est là, puis que l'occasion se présente, t'es là devant lui, puis, whoop, on a manqué l'occasion ou on en a profité. Être prête. Dans 1 Pierre 3:15, ça nous dit de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prête à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Être toujours prête à répondre. Ça veut dire, faut que tu aies ta pensée des choses de Dieu avant que tu rencontres la personne. Si tu es en train de penser qu'au char, puis à la maison, puis tu vas arriver là, puis tu vas parler que de char puis de maison, tu ne seras pas prête. Mais si tu es en prière, puis tu médites la parole, puis tu penses à ton rendez-vous, puis là, tu arrives là en pensant au Seigneur, tu vas attendre que Dieu trouve une porte, puis qu'il te donne une inspiration. Tu vas être prête à y communiquer. C'est ça qu'il faut que Dieu veut développer, pour qu'on soit comme Lucky Luke, qui dégaine plus vite que notre ombre. Mais on va dégainer tout de suite pour parler de Jésus. Un autre point que Dieu faut qu'il travaille, puis ça fait partie, malheureusement, de notre vieil homme. Notre vieil homme, là, je vais vous dire franchement, lui, ça y intéresse pas. Ce corps-là, ici, ça y intéresse pas de parler de Jésus. Puis de s'occuper des choses de religion. C'est servir le Seigneur, lui, c'est pas ça qu'il voulait, c'est se servir lui-même. Le corps, lui, veut se servir lui-même. On a toute cette nature-là à combattre. Ses intérêts, à lui, sont pas nécessairement les intérêts du Seigneur. Puis ça a l'air que c'est avec lui quand même, il faut que je sois là, en train de prête à vouloir parler de Jésus. Il faut que Dieu nous donne du zèle. La chose la pire, là, je pense que je vois dans beaucoup d'églises, ben, j'en ai fait plusieurs, c'est les gens sont paresseux spirituellement parlant. Ils sont pas tous engagés tout le temps. Beaucoup de temps, là, on veut le passer pour nous, notre corps, ses satisfactions. On n'est pas là dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas là. On sera supposé d'être là. Comme un exemple, aller à l'église. On est supposé d'être à l'église lorsque c'est le temps des réunions de l'église. Pourquoi? Pour aller être là, pour représenter l'église. On est l'église. Si les chrétiens, s'ils vont plus à l'église, ils seraient supposés d'être là. Un gars, un nouveau rentre, puis lui, il voit pas personne dans l'assemblée, parce que tout le monde sera resté chez eux. Ils sont pas en train de faire leur devoir d'être assis à l'église, puis de glorifier Dieu, puis d'écouter le message, puis de prier pour ceux qui rentrent, pour que les gens puissent se convertir. Fait que le travail se fait pas si on n'est pas là. Mais pour l'évangélisation, c'est la même chose. Si on n'est pas là en train d'évangéliser, qui va les évangéliser? C'est les chrétiens qui savent c'est quoi faire. Puis c'est quoi? Pourquoi qu'on ne sera pas là en train d'évangéliser quand Jésus nous dit d'y aller? Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Les églises ne veulent pas sortir de leur église. Les gens de l'église ne veulent pas sortir de l'église. Pas juste ici, ailleurs, c'est la même chose. Pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons, mais une entre autres, c'est la paresse spirituelle. On est paresseux. On ne veut pas y aller. On le sait que ça en va tout en enfer, mais c'est comme si on veut l'oublier. On veut pas se responsabiliser puis dire, il faut que je mette au moins une heure par semaine du temps pour prier pour le monde, ça aussi, mais sortir au moins de temps en temps pour aller faire un effort d'aller passer des pamphlets, faire quelque chose pour, je serai en train d'accomplir ce que Dieu me demande. Même si je sortirais une heure par semaine, ça sera déjà beaucoup plus que d'autres qui veulent pas pantoute sortir parce qu'ils disent, il y a un lion dehors. On sort pas. On va se faire dévorer. Il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de lion dehors. Faites-vous-en pas. Vous ne vous ferez pas dévorer. Puis, il y a des lois qui protègent les gens, puis on a le droit pleinement de sortir puis d'aller leur parler. Puis, il nous arrivera rien. On n'est pas d'un pays où c'est dominé par une autre religion qui massacre les autres, là. On n'a pas à avoir peur. Mais si on n'a pas peur, c'est qu'on est paresseux. Puis ça, Dieu, il faut qu'il travaille ça, notre paresse. Parce qu'on va arriver un jour devant lui. On va-tu rire jaune ou on va rire de joie? Il va-tu nous dire, bon et fidèle serviteur, t'étais fidèle en peu de choses. Il va-tu nous dire qu'on était fidèle ou si on va nous dire, méchant serviteur, paresseux. C'est ça qu'il dit à celui qui enterre son talent. Il traite de paresseux. On va-tu se faire traiter de paresseux par le Seigneur ou il va être fier du travail qu'on aura accompli? Je sais qu'on n'est pas tous des vrais évangélistes, dans le sens du vrai nom d'évangéliste, le titre. Mais on n'a pas besoin d'être un titre d'évangéliste pour évangéliser, pour raconter notre témoignage. Celui qui était délivré de démons, lui, il était, puis il partageait la parole, puis il n'a même un, tu vois, dans la Bible, Jésus dit, dis-le pas à personne ce que je t'ai fait. Puis il s'est empressé à le dire à tout le monde. Il s'est empressé à le dire à tout le monde. Empressé. Dans Romains 12, 11, ça nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voyez-vous, le zèle, là, c'est le contraire de la paresse. Si on est zélé, on va parler de ça, puis on a hâte de retourner, puis on est zélé, on a du zèle. C'est d'avoir une excitation, une joie, une ferveur, tu as le goût de le faire, parce que tu le sais que c'est ta job. Puis tu as à cœur de faire ce que le Seigneur te demande. Tu vas y aller, puis tu vas donner l'exemple aux autres aussi pour les aider. Parce qu'en réalité, quand l'Église, on l'a dit la semaine passée en parlant de l'Église, l'Église est un centre de formation. On travaille ensemble, on apprend à prier, on apprend la parole de Dieu, puis on organise des activités pour évangéliser. C'est pour aider ceux qui ont de la misère à le faire. Fait qu'en faisant des choses en groupe, c'est plus facile après. Fait qu'on en fait dehors, on fait du porte-à-porte. Mais ça donne des occasions pour être formé, pour y aller, puis se pratiquer. Tu vas en faire des erreurs. Tu vas dire des affaires qui n'ont pas rapport. Mais tu vas t'améliorer parce que le Saint-Esprit, lui, va te transformer pour devenir comme Jésus. Il va te montrer ce qui ne marche pas. Il va t'inspirer des nouvelles répliques. Puis tu vas être guéri pour le faire sans gêne. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Jésus nous dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis il nous dit dans Isaïe 6:8, il y a eu une vision, là. Le Seigneur est apparu à Isaïe, puis il a vu toutes sortes d'affaires. Puis là, il a dit, j'entendis la voix du Seigneur. Isaïe qui a dit ça, j'entendis la voix du Seigneur, disant, c'est le Seigneur qui dit ça. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Dieu, il a dit ça, puis Isaïe l'a entendu. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe, il dit, je répondis, me voici, envoie-moi. C'est ça qu'Isaïe a répondu, puis je pense que ça doit nous représenter. On devrait être celui qui veut être envoyé par le Seigneur. Pour aller évangéliser, pour aller parler dans le nom du Seigneur. Le Seigneur voudrait tout lui dire quelque chose, puis il attend qu'on y aille pour aller porter le message pour lui, comme si ce serait lui qui parle. Amen. Comment est-ce qu'il y en a qui veulent dire au Seigneur, je veux être celui qui veut y aller. Me voici, envoie-moi. Je veux être celui qui veut y aller. Mais le Seigneur, il voit vos mains, il voit vos cœurs, puis il va vous utiliser. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de ce que tu veux faire en nous. On ne mérite rien, Seigneur, par nous-mêmes, on n'est pas capable, mais on sait que par ton esprit, c'est la puissance qui nous équipe pour être un témoin. Guide-nous, envoie-nous, montre-nous ce que tu veux qu'on fasse, montre-nous le chemin, mais montre-nous aussi c'est quoi que tu veux qu'on dise. Où ce que tu veux qu'on le dise, qu'on soit là pour présenter ton message. Seigneur, merci de vouloir nous utiliser. Donne-nous du zèle. Donne-nous une sensibilité aux âmes perdues. Donne-nous de ne pas être paresseux. Seigneur, envoie-nous. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.